Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les politiques logicielles libres de Lyon et de la métropole du Grand Lyon, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique d'Antanac sur les réseaux Refis et un hommage mérité aux faits divers et à Eugène Rochko, développeur de Mastodon. Ça sera la chronique de Laurent et Laurette Costi. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavoue.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 13 décembre 2022, nous diffusons en direct mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, Thierry Holville. Salut Thierry.
Bonjour à tous.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Que libérer d'autre que du logiciel ? La chronique d'Antanac. Le sujet du jour porte sur le réseau Refis. Une rediffusion de la chronique du 29 novembre suite à un contretemps de l'invité du jour. On se retrouve dans 12 minutes environ, en direct, sur Cause commune.
Que libérer d'autre que du logiciel ? La chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par tous et toutes. Le sujet du jour, c'est le réseau Refis. Et je passe la parole à Isabelle Carrère. Bonjour Isa.
Bonjour Fred, merci beaucoup.
Alors oui, le réseau Refis, on en a déjà parlé, je crois, dans plusieurs chroniques d'Antanac, cette émission à laquelle nous sommes vraiment définitivement heureux de participer. Le Refis, donc, c'est un réseau de reconditionneurs en Ile-de-France, hein, parce qu'on peut pas, voilà, on peut pas s'occuper de tout le territoire national, mais en tout cas, l'idée était de se mettre ensemble à plusieurs pour pouvoir à la fois faire des partages d'expériences, de pratiques, et puis aussi se soutenir sur les besoins de matériel que nous pourrions avoir les uns, les unes et les autres. Et alors là, je suis très content parce qu'aujourd'hui, il y a Zelda qui est d'accord, qui a été d'accord pour participer à cette chronique avec moi et qui est au téléphone avec nous. Bonjour Zelda.
Bonjour Isabelle.
Ça va bien ?
Oui, merci.
Bon, c'est super. Alors, je te laisse présenter un petit peu la structure dont tu es la présidente et qui fait partie donc, du Comantanac du réseau Refis.
Donc, je suis Zelda Beignet, présidente de l'EVS Necker-Falguière, l'EVS. C'est Espace de vie sociale, qui est une politique de la CAF, qui il y en a une quarantaine dans tout Paris, et ce sont des mini-centres sociaux, donc comme un peu les maisons de quartier aussi. Nous sommes là pour accompagner les habitants en leur proposant du soutien scolaire, des ateliers cuisine, ateliers jardinage, des sorties, et bien sûr aussi de mettre en place les projets qu'ils ont envie de se réaliser. Et le numérique également, qui pose un certain problème, notamment pour les seniors. Et nous faisons partie du dispositif de la ville de Paris qui est Senior Connecté, donc pour aider dans nos ateliers au cas par cas pour les seniors en difficulté. D'accord. Et on fait aussi le pass numérique qui est aussi un essai pilotage pour accompagner les personnes en RSA dans leur démarche administrative accompagnée numériquement.
Voilà, c'est ça. Donc c'est aussi là-dessus qu'on s'est effectivement rencontrés, retrouvés, parce que plusieurs des structures de Refis sont en accompagnement, en soutien, chacune avec sa façon et ses choix à la fois politiques et de mise en œuvre. Mais effectivement, c'est des sujets sur lesquels on est tous amenés à beaucoup réfléchir sur qu'est-ce qui se passe dans la société et quels sont tous ceux qui sont exclus petit à petit ou en continu de ces... Voilà, des actes administratifs et même des éléments culturels ou autres, l'ensemble du numérique au sens large dans la société. Et puis alors du coup, il y a le matériel.
Il y a le matériel et aussi, j'ai oublié de signaler que nous sommes la seule structure dans le 15e à faire aussi une formation pour le logiciel libre parce que c'est moins onéreux pour notre public, nos usagers. Et donc, nous récupérons des ordinateurs et grâce au réseau Refis aussi qui nous en procure et je tiens ici à le remercier. Et nous les reconditionnons et après, nous les donnons ou prêtons plutôt à des personnes qui sont en difficulté. Et quand ils auront trouvé du travail ou une position plus stable financièrement, ils nous amènent l'ordinateur qu'on avait reconditionné et prêté. Et pour ceci, nous signons donc une charte et nous récupérons ainsi les ordinateurs pour encore les redistribuer à d'autres qui sont dans le besoin.
D'accord, vous êtes uniquement sur le prêt, vous. Vous faites pas du don. Vous êtes pas. Il y a aucun moment
ici,
où tu.
C'est ouais. En fait un don à longue durée.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si les gens le rapportent pas, c'est qu'ils en ont encore besoin non, et donc ils le conservent. C'est ça. Ouais. Ok, d'accord.
Absolument.
Oui. Tu dis prêt, mais en fait, oui, d'accord. Ok. Nous, on a beaucoup, on aime beaucoup à Antanac la notion de droit d'usage. J'imagine que c'est un peu ça dont vous parlez aussi, vous.
Oui, tout à fait.
C'est ça. Donc, continuez à considérer à la fois et les logiciels, les systèmes d'exploitation libres, mais aussi le matériel comme des biens communs qui peuvent être fournis à des personnes au fur et à mesure de leurs besoins. Et puis, ça tourne, quoi.
Tout à fait.
OK. Et je crois que vous faites des formations aussi.
Oui, on fait la formation donc les mercredis matins pour le logiciel libre. En général, c'est un atelier qui est de 3 fois. Et si on constate que la personne n'est pas au point et maîtrise pas assez, on en ajoute d'autres jusqu'à une maîtrise donc du logiciel. Et bien évidemment, on reste toujours en contact s'il y a des difficultés qui peuvent se présenter dans le futur.
Ça t'aurait une idée de nombre de personnes que ça touche, du coup, les activités de l'EVS? Tu sais, non?
Non, c'est compliqué.
Non, c'est pas compliqué. J'ai pas les chiffres dedans, mais en ce qui concerne, par exemple, les seniors connectés, nous avons en une année entre 90 et 120 personnes qui changent. Donc, voilà. Et puis, sans compter les sollicitations en dehors des vendredis et mercredis.
Oui, c'est ça, des demandes spontanées et sporadiques.
Voilà,
des personnes. OK. Et alors, vous êtes, parce que nous, en Tanac, donc, sur à peu près les mêmes activités, on est majoritairement des personnes qui agissons bénévolement, à part les écrivains numériques publics. De votre côté, EVS, par contre, du coup, il y a des financements CAF et il y a des salaires.
Il n'y a pas de salaire.
Pas du tout de salaire.
Non, pas du tout de salaire. Et toutes nos prestations pour nos usagers sont gratuites. Okay. On tient beaucoup à cela.
Ok. Du coup, ça veut dire c'est simplement les subventions de la CAF et d'autres structures
non,
aussi
on
où tu arrives à.
Non, subventionné par la CAF et la ville de Paris.
Et la ville aussi. D'accord.
Oui.
Ok. Et ça suffit à faire tout fonctionner sur le loyer, le matériel, les choses. Ouais. Ok.
Il y a quelques difficultés, mais bon, quand on croit en ce qu'on fait,
c'est ça.
On arrive à les aplatir. Ou les aplanir.
Les aplanir, oui, absolument. Okay. Mais donc, il n'y a pas de salaire, c'est un choix
non.
du dispositif ou c'est parce que les centres sociaux ou l'équivalent centre social dont tu parlais, c'est ça que ça signifie? C'est une obligation
non,
ou c'est un
non,
choix
non,
de votre part?
C'est un choix de notre conseil d'administration.
D'accord. Et pour autant, donc, vous arrivez à ce qu'il y ait suffisamment de personnes pour assurer l'ensemble des opérations?
Oui, on est une petite douzaine de bénévoles. Donc, pour les différentes activités énumérées en introduction, et pour tout ce qui est numérique, ça tourne autour d'un noyau de 3 à 4 personnes.
Ok. Bon ben voilà, et c'est pour ça que c'est intéressant ce réseau, vraiment, parce qu'on arrive, toi tu disais dans le 15e, nous on est dans le 18, il y a d'autres structures qu'on va, j'espère, arriver à inviter aussi dans cette chronique. On avait invité Brice du Garage Numérique, qui lui est dans le 20e, voilà, je pense que c'est intéressant puis aussi qu'on puisse faire comme ça du partage d'expérience, et puis qu'on signale aussi aux gens qu'est-ce qu'il y a peut-être plus près de chez eux, quoi, parce que nous on voit en Tanac beaucoup de gens venir de très loin, et on se dit, bon, enfin voyons, tu pourrais aller un peu ailleurs plutôt que jusqu'au 18e. Ok, super. Tu voulais ajouter quelque chose, celle-là, ou
non,
t'as dit l'essentiel?
Je vous remercie de m'avoir invité.
Avec plaisir.
Je trouve que je suis tout à fait dans la philosophie de l'union fait la force. Et c'est fabuleux de se retrouver plusieurs structures sur le même socle commun.
Oui, voilà. C'est ça. Voilà, et c'est bien qu'on ait réussi effectivement, comme tu dis, à trouver un socle minimaliste, parce que il y a vraiment sur les grandes lignes, on est tous en phase là-dessus, quoi, sur la question du réemploi, de la réparabilité, et puis pour la majorité d'entre nous sur les logiciels et systèmes d'exploitation libre, c'est pas complètement le cas de toutes les structures, mais bon, voilà, après nobody's perfect, et en tout cas nous on est sur la même ligne. Merci beaucoup, et donc à très bientôt, parce qu'on a prévu de se voir, on a une réunion le 30 novembre, donc on va se voir pour de vrai très bientôt. Merci,
avec plaisir.
Merci beaucoup.
Merci à toi, Isabelle. Au revoir.
au revoir.
Eh bien, merci Selda et merci Isabelle. Donc, c'était la chronique Que libérer d'autres que du logiciel, la chronique d'Antanac. Le réseau dont on parle, c'est donc le REFIS, Réemploi Francilien et Informatique Solidaire, dont on aura l'occasion de reparler bientôt, qui n'a pas encore de site web, parce que j'ai posé la question. Donc, dès qu'il y aura un site web, on vous préviendra. Belle journée à toi, Isa, puis au mois prochain pour la prochaine chronique.
Merci beaucoup, absolument, au mois prochain.
Nous venons d'écouter Que libérer d'autre que du logiciel, la chronique d'Antanac. Voilà, comme vous avez pu le déduire, il s'agit bien d'une rediffusion de l'épisode enregistré le 22 novembre. Nous allons à présent faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons des politiques menées par la ville de Lyon et la métropole du Grand Lyon en faveur des libertés informatiques. Mais nous allons d'abord écouter Throne Room par Sawtooth. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Venons d'écouter Throne Room par Sawtooth, disponible sous licence Creative Commons Attribution CC BY 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Avant de passer au sujet suivant, une petite annonce de service. L'équipe de l'émission souhaite vous connaître et vous propose un questionnaire. Répondre à ce questionnaire vous prendra pas plus de 5 minutes normalement et nous aidera avec vous à améliorer l'émission pour toujours mieux répondre à vos attentes. Je vous propose maintenant de passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur les politiques de la ville de Lyon et de la métropole du Grand Lyon en faveur, menées en faveur du logiciel libre. un sujet enregistré en avance dans les conditions du direct le jeudi 8 décembre pour des questions de disponibilité de nos invités. Je vous propose donc d'écouter cet échange. Dans Libre à vous, nous aimons mettre en valeur les collectivités qui œuvrent pour les libertés informatiques et mettent en place des politiques publiques en faveur du logiciel libre. C'est donc avec un grand plaisir que je reçois aujourd'hui Emeline Baume et Bertrand Mass, respectivement élus de la métropole du Grand Lyon et de la ville de Lyon. Deux niveaux de collectivités qui s'imbriquent, comme leur nom l'indique, et qui couvrent un large territoire, une population importante. Lyon, comme la métropole du Grand Lyon, ont récemment voté des délibérations pour formaliser des politiques publiques en faveur du logiciel libre. Nous allons parler avec nos invités pour essayer de comprendre quelles sont ces politiques publiques, comment elles peuvent s'articuler, de comprendre comment elles sont mises en œuvre concrètement, qu'il s'agisse de politiques d'achat, de conduite du changement ou encore de sobriété numérique. Donc pour en discuter, donc Emeline Baume, vice-présidente de la métropole de Lyon, votre mandat porte sur économie, emploi, commerce numérique et commande publique. Bertrand Mass, vous êtes conseiller municipal à la ville de Lyon et votre mandat porte sur l'administration générale, l'informatique et la politique du numérique. Donc bonjour à vous deux, merci d'avoir accepté de prendre ce temps pour échanger avec nous. Alors déjà, est-ce que vous souhaitez tout d'abord compléter la présentation très formelle que j'ai fait de vous respectivement avec une question sous-jacente pour vous deux, quel est votre rapport à l'informatique, soit technique et ou politique? Emeline Baume, si vous voulez souhaiter commencer.
D'accord, bah merci déjà de nous avoir proposé d'intervenir ensemble, c'est très agréable. J'ai un rapport très distancié avec l'outil numérique à titre personnel, puisque j'ai la chance d'avoir cette délégation numérique en n'étant absolument pas usagère fan de tous ces outils numériques. Voilà, c'est important de le poser là, parce que ça explique beaucoup de choses dans le fait que j'ai aisément pu expliquer à mes collègues élus, mais qui partageaient pour le coup une posture politique autour de la souveraineté, autour de nos données, mais aussi finalement une compréhension de ces usages du numérique et donc cheminer vers des pratiques sobre et revenir pour faire simple à l'essentiel, voilà, utiliser dans le bon sens l'outil numérique et le bon. Ça m'a été aisé de discuter avec l'ensemble de l'équipe qui gère le système d'information de la métropole de Lyon. Il faut avoir en tête que la métropole de Lyon, c'est 9600 agents plus des équipements et un service pour l'ensemble des 83 collèges du territoire. Donc on n'est pas dans une petite organisation qui, à titre militant, peut faire le choix en un an, deux ans, je caricature, hein, mais de changer de pratique et de système. Il y a, comme vous l'avez indiqué très concrètement dans votre introduction, une conduite du changement à accompagner et donc un argumentaire politique à développer, une forme d'acceptabilité aussi à aller rechercher auprès des hommes et des femmes qui font le service public au quotidien sur la métropole de Lyon. Voilà, donc
et
une avant posture de bien différente.
Et justement, moi-même, je ne suis pas technicien, je trouve ça intéressant et sans développer, mais c'est quelque chose qu'on aime dire à l'April, que le logiciel libre est un enjeu qui n'est pas seulement une question pour les informaticiens et les informaticiennes, mais qui concerne absolument tout le monde. Bertrand Mass, même question?
Oui, bah, d'une certaine façon, un petit peu même réponse. C'est-à-dire qu'avant de prendre mon mandat, j'avais pas du tout un passé dans l'informatique ou le numérique. C'est vraiment le fait d'avoir pris la délégation numérique qui m'a incité à me plonger dans toutes les problématiques qui y sont liées. Et d'une certaine façon, alors je dis parfois en plaisantant que j'ai l'impression d'avoir ouvert les portes de l'enfer en me penchant sur toutes les problématiques liées au numérique, qu'elles soient environnementales ou plutôt les sujets dont on va discuter aujourd'hui autour du logiciel libre ou au contraire privateur. Voilà, donc finalement, à titre personnel, dans l'usage des outils, bon, j'ai un peu un usage lambda, je pense pas être très utilisateur par rapport à d'autres, et en tout cas, j'ai une approche essentiellement politique du numérique et pas tant technique, voilà.
Très bien, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je suis heureux de vous entendre utiliser le terme de logiciel privateur. Alors pour les personnes qui nous écoutent souvent, je pense qu'ils sont familières et elles sont familières de ce terme. Je vais juste rappeler peut-être justement, puisque vous nous donnez l'opportunité, que dans le langage courant, on entend souvent parler de logiciel propriétaire, ce qui est un dérivé du terme anglais. Nous, on préfère le terme privateur, puisqu'en fait, on considère que ces logiciels nous privent de liberté fondamentale, ils nous privent de droits. Et c'est pas un néologisme, c'est un terme ancien en fait qui existe dans la langue française. Je pense que la plupart de nos auditeurs et auditrices se représentent assez bien ce qu'est une ville, le rôle d'un conseil municipal, quoique peut-être qu'on y reviendra, mais c'est sans doute en tout cas moins le cas pour la métropole du Grand Lyon, une collectivité comme celle-ci. Comment fonctionne-t-elle? Quelles sont ses compétences? Comment sont élus ses membres? Voilà. Et comment ça, cela s'articule avec les municipalités, notamment celle de Lyon? Alors, sans qu'il s'agisse, je vous invite pas, voilà, à nous faire long exposé et d'en faire le cœur de notre sujet, mais je pense que ça peut aider à mieux comprendre, dans la suite de notre échange, comment vos deux collectivités territoriales, notamment, peuvent mener des politiques publiques concertées, j'imagine, en faveur du logiciel libre.
Alors la métropole de Lyon, c'est une collectivité assez jeune. Hein. Elle est née au 1er janvier 2015, donc c'est normal que les personnes qui nous écoutent ne sachent pas exactement ce que trafique une métropole de Lyon. La métropole de Lyon, c'est la connexion entre un département, donc le département en général, il est connu parce qu'il porte les compétences sociales de avant la naissance jusqu'à la mort, donc c'est la protection maternelle et infantile, l'aide sociale à l'enfance, l'accompagnement des personnes en situation de handicap, mais aussi l'accompagnement du vieillissement. Voilà, pour faire très simple, un volant qui nous relie à d'autres compétences de la métropole, c'est tout ce qui est l'accompagnement des personnes qui sont suivies au titre du revenu des solidarités actives. Et puis après, on est comme une communauté urbaine, il y a d'autres communautés urbaines en France, Dunkerque, Nantes, etc. Et les communautés urbaines, elles portent les compétences urbaines du quotidien. Donc la voirie, l'eau potable, l'assainissement, la collecte des déchets, entre autres, mais pas que. Et puis au milieu, on retrouve des choses lourdes du type l'urbanisme, donc la destination des fonciers et de l'immobilier, et le développement économique. Donc c'est l'accompagnement à toutes les organisations socio-économiques. Voilà, tout ça, ça fait, et puis j'ai oublié, mais je l'ai dit tout à l'heure, la compétence d'accompagnement des collèges. Une ville, elle accompagne les écoles maternelles et élémentaires. Un département accompagne les collèges, les régions accompagnent les lycées, pour faire simple. Et donc tout ça, ça fait 9600 agents, un énorme système d'information, avec du coup des entrées très diverses, un sujet de guichet unique de politique sociale, et en même temps de l'accompagnement à la transition écolo sur la rénovation des copropriétés, la rénovation pour les bailleurs sociaux, et en même temps des choses très pratico-pratiques du quotidien. La prime vélo, la prime pour, enfin la distribution de composteurs et enfin plein d'autres éléments, et ça recouvre, comme vous l'avez dit dans votre introduction, un territoire qui compte 59 communes et à peu près 1 400 000 habitants.
D'accord. Et alors vous êtes élu dans le corps politique.
Ah oui, pardon, voilà. Élu au suffrage universel direct depuis, c'était la première fois depuis juin 2020. C'est-à-dire que au moment des élections municipales, les habitantes et habitants du territoire de la métropole de Lyon étaient invités à voter deux fois. Une première fois pour leur commune, Saint-Priest, Bron, Lyon, c'est particulier parce que c'est aussi par arrondissement, Rieux-la-Pape, etc. Et une deuxième fois en tant qu'habitant d'une circonscription métropolitaine. Pour donner un exemple, moi, je dépends de la circonscription métropolitaine qui regroupe 3 arrondissements de Lyon. Voilà, donc c'était la première fois. Je ne suis pas certaine que l'ensemble des habitantes et habitants aient, un, identifié, ils ont voté deux fois souvent parce qu'on les y a invités une fois qu'ils étaient dans le bureau de vote, et deux, je ne suis pas certaine que plus de la moitié des habitantes et habitants voient au quotidien ce qu'est la métropole de Lyon en termes de services publics.
Comme vous avez dit, c'est une collectivité jeune. Et vous êtes donc élu sur liste, comme
on est élu sur liste, ouais. Comme Bertrand, comme à la ville de Lyon, modulo la loi PLM.
Bertrand Mas, justement, est-ce que vous souhaitez compléter de votre regard d'élu d'un conseil municipal? Et puis, d'ailleurs, je l'ai présenté comme une évidence, mais ça ne l'est peut-être pas tant que ça. En quelques mots, comment fonctionne un conseil municipal et dans quel contexte politique, notamment, vote-t-il des délibérations, par exemple?
Alors, comment fonctionne-t-il? Alors, à Lyon, on est effectivement une ville à arrondissement, ce qui apporte une petite particularité. Donc, de la même façon que Marseille et Paris. Donc, il y a des conseils d'arrondissement et un certain nombre d'élus qui siègent au conseil d'arrondissement siègent également au conseil municipal. Et bien, après, comment ça fonctionne-t-il politiquement? On a donc un maire qui est entouré d'un exécutif composé d'adjoints et d'adjointes et qui soumettent à durée à intervalle de temps régulier, c'est-à-dire à peu près 7 ou 8 fois par an, au conseil municipal des délibérations. Voilà, après, c'est une instance délibérante un petit peu classique hein, qui fonctionne. Enfin, les délibérations sont adoptées ou refusées lors de votes en conseil municipal.
Entendu. Et je pense que c'est le bon moment pour poser cette question finalement. Alors, est-ce qu'il y a des j'imagine qu'informellement au minimum vous avez des interactions hein, entre les élus de ces deux collectivités. Est-ce qu'il y a des ponts formels, est-ce qu'il y a une organisation au moment de la création notamment du métropole des Grands Lyons? Est-ce qu'il y a des interactions politiques prévues, des instances prévues pour les échanges politiques entre les deux niveaux?
Alors, il y a une instance hyper formelle, parce qu'elle est dans la loi, qui s'appelle la CTM, donc c'est le Conseil Territorial Métropolitain, au sein duquel, en fait, le président de la métropole et le maire de Lyon, ayant fait le choix d'y associer l'ensemble de ses maires d'arrondissement, échangent des sujets, soit en gros des sujets structurants de la métropole et de comment ça se met en place, ou comment ça va se mettre en place, normalement c'est en un mot, sur la ville de Lyon, et on a un pacte de cohérence, c'est-à-dire la ville de Lyon à travailler avec l'exécutif métropolitain les éléments qu'il souhaitait partager en termes d'investissement avec de l'investissement Métropole de Lyon. En gros, c'est un pacte d'accord financier, tout simplement. Ça, c'est ce qui est dans la loi. Et puis après, il y a délégation par délégation, dit autrement sujet par sujet, à la bonne volonté des vice-présidentes, vice-présidents côté métropole et des adjointes, adjoints côté ville, des coopérations qui se nouent, soit par intérêt commun parce qu'on est dans des instances en commun, soit parce qu'on sait qu'ensemble on ira plus vite ou ce sera peut-être plus simple. Et c'est ce qui nous arrive là sur le sujet, entre autres, de l'espace numérique de travail des agents, puisque nous sommes mis à trois avec un troisième organe qui s'appelle le CITIF, donc qui est un syndicat intercommunal sur des sujets informatiques et numériques, qui regroupe deux communes de la métropole et d'autres communes pour aller ensemble chercher de l'investissement public, donc auprès de l'État, auprès de France Relance, pour porter entre autres certaines ingénieries de projet, je vais le dire comme ça, pour la transformation de notre environnement numérique de travail. Partant du principe qu'en mutualisant l'ingénierie de projet, on s'éviterait chacun des dépenses, et peut-être aussi, mais ça on ne le saura qu'après, peut-être que Bertrand est plus au point que moi, mais peut-être aussi s'éviter des bourdes chacun, en réfléchissant ensemble, et services numériques informatiques et EVP adjoints et usagers, peut-être qu'on s'évite des bourdes magistrales, bourdes qu'ont pu faire par le passé d'autres organisations publique.
On parle de mutualisation, et c'est vrai que c'est un sujet qui est essentiel. On va y revenir d'ailleurs. Avant de vous passer la parole, Bertrand Mas, si vous souhaitez compléter, vous parlez du CITIV, et le CITIV alors, est un syndicat qui a été récompensé d'un label niveau 5 au label Territoire Numérique Libre, qui est le niveau maximal de ce label. Je vais saluer Lyon, hein, qui a également eu à nouveau un label 4, qui est un très bon niveau aussi, et qui récompense des engagements en faveur du logiciel libre. Donc, je salue le CITIV qui, voilà, vous le mentionnez, et qui est exemplaire en termes d'utilisation notamment et de contribution au logiciel libre. Vous souhaitez compléter, Monsieur Mas, ou sinon peut...
Ouais, bah simplement un petit mot concernant les systèmes d'information. Je crois qu'il y a quelques années, disons une vingtaine d'années, le système d'information de la ville et de la métropole était mutualisé. Et puis, pour des raisons que j'ignore, ça s'est séparé il y a quelques années. Et donc, nos DSI respectives ont pris des chemins différents. Et à savoir qu'il y a une particularité à la ville de Lyon, c'est que notre DSI ne possède pas de compétences de développement en interne. Voilà, tout ce qui est développement et externalisé, sous-traité, tandis que il me semble bien qu'à la métropole,
il y a encore de la production.
Ouais. J'ai prévu de vous réinterroger plus spécifiquement dans la deuxième partie d'émission sur ces questions, mais qui sont très importantes en fait, pas qu'il y ait une meilleure solution que l'autre, mais qui sont justement montrer la diversité des approches. Donc, justement, pour attaquer un peu maintenant le cœur du sujet, on a pris du temps, mais je trouve que c'est toujours intéressant de voir dans quel contexte politique justement et institutionnel peuvent être développées des politiques pour le logiciel libre, et c'est aussi dans ces cadres-là qu'on doit évoluer quand on fait du plaidoyer politique. Et donc j'aime bien passer du temps là-dessus parce que je pense que ça va éclairer la suite de nos échanges. Enfin bref, donc sur le cœur de notre sujet, j'ai d'abord envie de vous poser une question politique générale, pas forcément d'ailleurs en tant que représentant et représentante de vos collectivités respectives, mais plus largement en tant qu'élu et j'imagine facilement personne porteuse a priori quand même d'une conviction de l'intérêt général. Pourquoi une collectivité territoriale pour vous doit s'engager pour le logiciel libre? Pourquoi selon vous ça la répond justement à un enjeu d'intérêt général? Alors, en quelques mots, quelle est pour vous cette idée forte?
Qui commence?
Monsieur Mas, ouais, allez-y. Voilà.
Alors, pour moi, c'est peut-être un peu compliqué de donner une réponse générique. Enfin, en tout cas, moi, ce dont je me rends compte, c'est que selon le type de logiciel, le type d'application dont on parle, les raisons qui poussent à s'engager dans le logiciel libre peuvent un petit peu différer. Néanmoins, moi, je vois quand même quelques grands intérêts. Il y a d'une part une logique de transparence et donc de confiance vis-à-vis des citoyens et des citoyennes, à savoir que le logiciel libre, c'est effectivement le seul type de logiciel qui permet d'être certain de ce que fait effectivement le logiciel et de s'assurer qu'il n'y a pas des fonctionnalités malveillantes cachées, et ceci d'autant plus à l'heure du passage massif vers le cloud, qui concerne vraiment tout type de services, et y compris les services publics dématérialisés. Donc voilà, une logique de transparence, de confiance, quelque part donc de protection des données également. Pour les collectivités, ça peut offrir la possibilité de mutualisation. De solutions logicielles, et donc éventuellement, mais bon, on pourra rentrer dans le détail après, mais c'est quand même un peu plus compliqué que ça, mais éventuellement des économies de prix également. Et puis par ces possibilités de mutualisation notamment, pour moi ça permet d'assurer une forme de souveraineté du service public, c'est-à-dire de garder des développements publics, parce que bon voilà, il faut bien avoir conscience que lorsqu'on dématérialise un service public, on a souvent recours, enfin les collectivités ont souvent recours à des acteurs privés, éventuellement des logiciels donc propriétaires, privateurs, ce qui de mon point de vue constitue une privatisation du service public. Voilà, je dirais les trois grands intérêts de mon point de vue.
Super. Est-ce que vous souhaitez compléter, Madame Baume?
Je complète juste sur un élément, mais qui était sous-jacent dans le propos de Bertrand, parce que j'adhère à 600%. Effectivement, enfin, il y a le sujet de l'économie de prix où, pareil, on sera en capacité de l'affirmer, Bertrand et moi, dans 2 ans, peut-être un petit peu plus tôt, mais voilà. Un élément tout simple, c'est notre capacité aussi à l'effet d'entraînement, c'est-à-dire que là, on va accompagner au changement des hommes et des femmes, des agents qui ont certaines habitudes qu'ils ont dupliquées chez eux et dans leur environnement social, personnel. Et je trouve que on a une responsabilité en tant qu'élus, justement, à proposer d'autres voies, d'autres trajectoires, y compris dans le quotidien, pour participer à la souveraineté, à la protection des données, etc. Et je doute pas, je sais à quel point, parce que forcément, moi, ce qui revient vers moi, ce sont plutôt les éléments négatifs, mais je doute pas que parmi les 9600 agents, dans 3, 4, 5, 6 ans, eh bien, au moins un tiers auront partagé avec leur environnement personnel aussi bien les pratiques, la pratique en gros de logiciels libres, mais aussi la posture, en fait, le pourquoi, l'argumentaire. Et c'est important de le dire, parce qu'on a une sacrée capacité, un sacré effet d'entraînement. Et idem après, mais peut-être qu'on en parlera plus tard, lorsqu'on réalise nos achats publics, qui est un autre énorme effet levier transformationnel, quoi, dans les organisations de notre territoire.
Super. Très clair, merci beaucoup. Alors comme je l'indiquais en introduction, la métropole du Grand Lyon et la ville de Lyon ont récemment voté des délibérations en faveur du logiciel libre. Alors si je ne me trompe pas, le Grand Lyon en septembre 2021 sur la transformation de l'environnement numérique de travail des agents de la métropole, et la ville de Lyon en juillet 2022, mais cela fait suite à d'autres délibérations sur également l'espace numérique de l'agent 2022-2026. Donc a priori sur des périmètres similaires, d'ailleurs quand on lit les textes, notamment au niveau des objectifs, on imagine bien qu'il y a une forme de coordination, en tout cas dans le développement, l'élaboration de ces délibérations, de ces politiques. Et si je ne me trompe pas aussi, dans les deux cas, il y a un constat similaire d'une forte dépendance à certains logiciels privateurs, et en particulier Microsoft, pour le citer, parce qu'il est cité notamment dans cette délibération. Voilà, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, respectivement et du coup conjointement, j'imagine, ces délibérations ont été élaborées? Émilie Baume, puisque vous parliez juste avant, ouais. Si vous voulez continuer.
Alors, en commençant le mandat, en fait, donc un petit peu d'histoire, on a pris nos responsabilités en juillet 2020 et assez rapidement, moi, côté numérique. Alors d'abord, on a été aidé puisque l'équipe en responsabilité de gauche et écologiste avait mis dans son programme, c'est là que c'est important aussi que les gens qui nous écoutent l'entendent, de l'intérêt, parce que je sais que vous portez du plaidoyer à chaque fois au moment des campagnes, en fait, c'est pas inutile parce qu'on avait pris des engagements, on avait signé, alors je ne sais pas si c'était un pacte, je ne me rappelle
alors,
pas.
Je vais me permettre, voilà, effectivement, le maire de Lyon, qui est alors tête de liste pour les municipales de 2022, a signé ce qu'on appelle le pacte du logiciel libre de l'April, où il s'engage à porter une politique en faveur du logiciel libre.
Et je pense, ça paraît simple à dire comme ça. En fait, ce type d'engagement, d'abord, en tant que candidate et candidat, on n'oublie pas. Enfin, moi, j'étais candidate et puis c'était pas la première fois. Donc, je savais sur quelle ligne on était sur ces sujets-là. Et donc, quand on est arrivé en responsabilité, assez naturellement, le directeur des services numériques et du système d'information m'a posé la question. En fait, m'a dit, l'entrée de la discussion a été autour du renouvellement de licence Microsoft. Et tout de suite, je dis, mais attendez, nous, dans notre programme, on avait cette transformation, cette aller vers les logiciels libres. Donc, comment on peut se mettre en mouvement? Comment vous voyez les choses? Il nous a fallu un peu de temps parce qu'ils n'allaient pas, on sort de plusieurs, le Grand Lyon, puisqu'avant ça s'appelait le Grand Lyon, sort de plusieurs mandats plutôt tournée vers la privatisation. Et du coup, pas évident, en tout cas, quelques mois de discussion, on va dire ça comme ça, entre les équipes et moi, pour arriver à une délibération, mais je le dis aussi, c'est le deuxième élément à part le pacte, c'est on a été élu côté métropole au bon moment, c'est-à-dire que je savais que courant 2022, puis surtout en 2023, il y aurait des gros renouvellements de licences Microsoft à porter, et je me doutais que le coût serait un frein. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler, en disant en fait combien ça nous coûte. Et on a porté trois scénarios en discussion au sein de l'exécutif. Un scénario de continuité Microsoft, un scénario éditeur français sans accompagnement au changement et un scénario tout libre avec un fort accompagnement au changement et donc un pas de temps différent aussi, c'est-à-dire accepter au regard de l'expérience entre autres à Nantes et au ministère de la Transition écolo, parce que c'était les deux expériences qui étaient revenues vers nous, c'est-à-dire si on va vers du libre, on se donne du temps, on rachète pas de licence Microsoft, mais on se donne du temps. Donc trois scénarios pour arriver finalement à un scénario pour l'espace numérique de travail et recours aux éditeurs français pour certaines fonctions urbaines du quotidien. Je pense en particulier à l'eau potable, je le dis ici, puisqu'on passe en régie publique de l'eau au 1er janvier 2022. Et pour l'instant, le système d'information de la régie publique de l'eau, donc qui est à part de celle de la métropole, c'est peut-être un peu trop technique tout ce que je dis, mais sera porté sur l'éditeur français.
Entendu. Bertrand, si vous souhaitez compléter, puis peut-être nous laisser entendre comment se sont articulés, parce que voilà, j'imagine que vous avez fait ça en intelligence et pas chacun et chacune de vos côtés, surtout qu'on voit qu'effectivement les périmètres des délibérations sont similaires.
Oui, bah tout à fait. Alors déjà, je confirme ce que dit Emeline, hein, c'est que le fait d'inscrire ça dans nos programmes électoraux facilite quelque part le travail pour la suite, y compris pour la conviction au sein de nos propres exécutifs. Faut bien avoir en tête que le sujet, enfin tous les sujets tournant autour du logiciel, etc., y compris dans les milieux politisés et puis dans les nôtres en l'occurrence écologistes, etc., ça reste assez confidentiel, perçu comme assez technique. Bon voilà. Et puis sur tous les sujets numériques d'une façon générale, il y a assez peu de remise en question, etc. Donc effectivement les pactes les choses comme le pacte pour la transition, le pacte du logiciel libre, etc., sont de réelles aides, y compris pour l'argumentaire derrière. À savoir que donc à la ville de Lyon, on partait d'assez loin. Si vous faites des petites recherches sur Internet, vous pourrez trouver l'ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, qui pose avec Bill Gates il y a quelques années. Donc, autant dire qu'on est sur un environnement aujourd'hui essentiellement Microsoft. Et donc, effectivement, le sujet Microsoft s'est assez rapidement posé, puisque de la même façon qu'à la métropole, on a un certain nombre de licences qui arrivent à échéance les unes après les autres. De mon point de vue, il y a un élément assez important qui nous incite à passer rapidement, enfin à sortir rapidement du système Microsoft, c'est le passage au cloud. Encore une fois, donc le passage à Office, enfin à Microsoft 365, qui pose un sérieux sujet de souveraineté pour une administration publique, avec toutes les problématiques de droit américain, droit extraterritorial américain, Cloud Act, etc., qui font que si demain nos données passent sur, sont gérées par des systèmes Microsoft 365 sur le cloud, on peut plus en assurer la souveraineté, la protection.
D'ailleurs, on peut même dire qu'il y a eu des décisions, des avis, notamment de la Commission nationale informatique Liberté qui nous indique que le recours à ces, pour plein de raisons légales que vous avez évoquées, le recours à ces outils en ligne d'entreprises américaines, qu'il s'agisse de Microsoft ou Google ou d'autres, serait contraire au droit en vigueur sur les données personnelles. Donc en plus, il y a une forme d'obligation légale a priori à s'en passer.
Qui là encore nous aide d'une certaine façon. Oui. Alors parfois je trouve que au niveau étatique, il pourrait y avoir des incitations plus fortes à passer
voilà,
à des alternatives
merci
ou à
dire
en
que,
proposer.
Ouais, parce que ce qui est quand même étrange, c'est que là, vous avez la chance, là, on est deux collectivités avec quand même s'il n'y a pas de développeurs côté ville de Lyon, une capacité d'ingénierie, une capacité à prendre du recul. Si vous pensez à toutes les intercommunalités de France ou même ne serait-ce que les départements qui gèrent des données personnelles avec le RSA et des départements ruraux qui ont peu de recul, je trouve que l'accompagnement de l'État en tant que garant justement des libertés fondamentales et tout, il est minime. Il est vraiment. Je suis extrêmement étonnée, moi, qu'avec l'arrivée du cloud, on ne soit pas plus, à minima, interpellé. enfin, ça m'étonne.
Oui, il y a des choses qui... Bertrand Mas.
Non, mais je partage complètement. Et puis moi, bon, sur le sujet Microsoft, c'est vrai que de mon point de vue, il y a d'autres motifs qui devraient inciter la puissance publique à s'en éloigner. Hein. Je voyais qu'en 2019, Microsoft avait dû payer 350 millions d'euros à l'État français à Bercy pour des raisons d'évasion fiscale. Donc nous qui représentons la puissance publique, je trouve ça assez gênant qu'on confie tant à Microsoft aujourd'hui. Et puis, on est des exécutifs écologistes et de mon point de vue, Microsoft en tant que moteur de l'obsolescence des machines par l'obsolescence des systèmes d'exploitation, etc. C'est quelque part on va dire que Microsoft a une grosse responsabilité sur l'impact environnemental du numérique aujourd'hui, ce qui est une raison de plus pour nous de nous engager sur une sortie de ces systèmes-là.
Je ne vous ai pas poussé à prendre ces positions et j'imagine bien que je les partage volontiers. Je vois que le temps file et j'aimerais qu'on puisse peut-être aller un peu plus au cœur de comment concrètement vous œuvrez aussi pour le libre, hein, au sein notamment de vos systèmes de formation, auprès de vos habitants des territoires que vous représentez. Peut-être, on va faire une pause musicale, peut-être juste avant nous expliquer, bon, on imagine bien que du coup c'est le scénario logiciel libre qui a été retenu. Est-ce que ça a été un arbitrage politique difficile? Vous avez vraiment dû pousser au sein de vos exécutifs respectifs, ça a été facilement repris. Alors c'était dans le programme politique, vous nous l'avez dit. D'ailleurs, je vais souligner, je pense qu'on l'a pas dit, mais on a tourné autour de la question. Vous êtes chacune issue de la même formation politique, à Europe Écologie Les Verts. Donc je pense que ça facilite, j'imagine bien le travail. Très bien. Comme ça, je le dis, il faut le préciser.
Oui, non, moi je suis d'une petite formation écologiste qui s'appelle Génération Écologie, mais effectivement, en revanche, on travaille ensemble dans nos exécutifs et on défend plutôt les mêmes objectifs.
Merci de la précision. Et du coup, oui, en termes, ça a été acté assez facilement ou il y a eu quand même des arbitrages à gagner pour en arriver à ce vote?
À la métropole de Lyon, il y a vraiment, comme dans n'importe quelle organisation et encore plus dans une grosse organisation, c'est pour ça que j'ai pris soin de dire qu'il y a 9600 agents, ça a été présenté aux organisations syndicales. Il y a vraiment eu un moment de questionnement et d'inquiétude de la part de ma collègue qui est en charge des ressources humaines et de ses équipes.
D'accord, donc voilà. Plutôt côté agent que politique. Parce que l'agent, on va revenir après la pause musicale sur l'accompagnement au changement, je pense que c'est le cœur de la guerre, j'imagine. Et côté politique?
Et côté politique, comme le disait Bertrand, en fait, c'était inscrit dans notre programme. Donc, à la métropole, est-ce que je réfléchis vite aussi? Non, mais on est sur le même périmètre qu'à la ville de Lyon. Tous les collègues n'étaient pas à fond, comme l'indiquait Bertrand, parce que c'est pas non plus un sujet au cœur, sauf quand on est dans les mouvements écologistes. Mais quand on est dans d'autres mouvements de gauche, c'est pas un sujet au cœur, voire pire, c'est pas un sujet tout court. Mais la discussion, en fait, il y a eu un pari, c'est-à-dire qu'il y a celles et ceux comme Bertrand et moi qui défendaient les questions de transparence et de souveraineté et d'efficacité du service public, et il y a celles et ceux qui ne sont que sur l'efficacité du service public, c'est-à-dire une non-dépense, pas de retour, pas de renouvellement de licence Microsoft, mais aussi un gros questionnement sur les usages, et donc... À titre personnel, je sais que dans un an, dans deux ans, dans trois ans, je repasserai à la moulinette de l'exécutif et s'il y a des difficultés, j'aurai à argumenter. Voilà.
D'accord. Mais c'est une distinction qui est importante et de ramener. En fait, ça revient d'ailleurs à ce que vous disiez, comme vous disiez, vous n'étiez pas technicienne et que c'est justement, ce n'est pas que des questions techniques, ce sont des questions politiques et c'est pas toujours quelque chose qui est facile à faire entendre. Je vous propose de faire une pause musicale avant d'attaquer justement ce que vous mettez en œuvre plus concrètement dans vos collectivités. Nous allons écouter La Ville par Zincaro. On se retrouve dans 2 minutes 42. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
Tant et si lâche les amarres, embarquer, naviguer. On vit dans la cité à deux doigts disjonctés, mais on reste cool. Après tout, c'est qu'une ville colorée, 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 maquillée, ses murs, ses rues, ses allées. À l'heure des musiques, on ira danser, danser. Dans ces endroits il fait pas froid, où y a pas trop de loi, où la musique c'est cool dans les verres que tu bois, où la musique c'est cool dans les verres que tu bois, où la musique c'est cool dans les verres que tu bois. Ici ça gonfle, ici ça plombe, savoir respirer, écouter, travailler, et se laisser glisser, s'en aller des ruelles, même si elles sont belles.
j'avais pas d'argent. Mais hors de la vie sans crédit, ça pue le deal dehors de la ville. J'en fut-il. Tenter, c'est lâcher les amarres, embarquer, naviguer. On vit dans la cité à deux doigts disjonctés, mais on reste cool. On fait pas d'argent, mais l'or de la vie sans crédit, ça pue le deal d'or de la ville, j'en fut-il. Ils veulent nous stresser, ils ont dans la tête de se presser, sans chanter c'est pas leur rêve. On s'étonne même de voir que 5 tonnes d'espoir, c'est tout noir, provoque des vocations, des pots de la nation. On a de tout en tenté de faire des progrès, de drôles de projets.
Venons d'écouter La Ville par Zincaro, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC BY SA.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Je suis Étienne Gonu pour l'April, vous écoutez Libre à vous sur la Radio Cause Commune. Nous enregistrons ce jeudi 8 décembre 2022 dans les conditions du direct avec mes invités Emeline Baume, vice-présidente de la métropole de Lyon, et Bertrand Mass, conseiller municipal à la ville de Lyon, un sujet sur les politiques conduites par ces deux collectivités en faveur du logiciel libre. Alors avant la pause, on discutait effectivement du fond de ces politiques publiques, de pourquoi un engagement en faveur du logiciel libre. Et je vous propose à présent de nous arrêter plus précisément sur comment elles sont mises en œuvre dans les usages quotidiens de vos administrations, que ce soit au niveau de vos propres systèmes d'information, mais également à l'égard des habitants et habitantes de vos territoires. Et puis même avant ça, de savoir comment, puisque vous parliez d'un passif Microsoft, d'un passif sur du logiciel, d'une dépendance à un logiciel privateur, comment vous avez mis en œuvre une migration vers du logiciel libre, voilà, qui en plus j'imagine aussi au début d'un processus, puisque vos délibérations ont un peu plus ou à peine un an maintenant. Qui souhaite commencer?
Moi, je voulais peut-être simplement compléter ce que disait Emeline, en tout cas abonder dans son sens, c'est-à-dire que rien n'est définitivement acquis sur le sujet. Hein. On sent que les efforts qu'il faut consentir pour passer au logiciel libre pourraient vite être montrés du doigt dans l'exécutif, par exemple, parce que de fait, ça nécessite certains coûts, notamment pour la formation, le changement, et aujourd'hui, les collectivités sont, et risquent de l'être d'autant plus dans les années à venir, très pressurisées financièrement. Donc voilà, je pense qu'on vit un petit peu avec cette crainte que cette politique soit remise en cause. Voilà, alors après politiquement, on s'y est engagé, etc. Mais je pense qu'on aura régulièrement à ressortir l'argumentaire, le pourquoi de notre démarche.
Oui, et puis il y a des intérêts contraires, malheureusement, puis aussi des moyens forts pour contredire les avancées en faveur du libre. Alors du coup, voilà, il y a des résistances qui peuvent être aussi, simplement du fait des habitudes, du fait, voilà, des habitudes techniques, des habitudes d'usage. Comment est-ce qu'on aborde, voilà, on arrive avec une proposition politique forte, comment on aborde cette question du changement? Et je pense que ça peut intéresser beaucoup d'autres collectivités qui se sont posées les questions. Donc comment vous avez abordé cet enjeu dans vos collectivités?
Alors, côté Madame métropole de Lyon, il y a eu avant même en fait qu'on prenne la délibération de septembre 2021, et puis après aussi, il y a eu des sortes de groupes projets en fait, par délégation, donc par grande politique publique. On a demandé à des agents, donc de tous les niveaux, hein, catégorie ABC, c'est-à-dire que autant les encadrants que les exécutants, et en particulier, j'insiste, les assistants et assistantes secrétaires, voilà, de tester les choses, de regarder plus précisément quels outils ils et elles utilisent au quotidien. Et ça nous a permis de nous rendre compte, je fais une grosse caricature, mais donc quand je suis passée devant les instances pour assurer du dialogue social sur ce sujet-là, le retour qui m'a été fait, je vous fais aussi une caricature, mais c'était vraiment ça, c'est en gros, parce qu'ils comprennent la démarche politique, parce qu'eux-mêmes ils y adhèrent, 70% de l'encadrement est OK et aussi OK pour un accompagnement au changement des pratiques du quotidien. Et en gros, en un an, deux ans, glissant, on y arrivera. Les catégories B, ça dépend vraiment des équipes et des services, en gros, en fonction des systèmes d'information déjà en place. Et quand on arrivait à des postes d'accueil et de secrétariat, ce qui m'est revenu, c'est mais en fait, on pourra plus fusionner les agendas, comment on va faire? Voilà, pour vous donner un peu ce qui se passe concrètement quand on est en situation de responsabilité. Et du coup, je suppose, mais je le sais pas par cœur de tête, à partir de là, on a calibré ce que Bertrand a amené comme frais de fonctionnement quand même conséquent. Et pour aller chercher cette enveloppe-là, c'est pas forcément évident, mais on a calibré l'accompagnement au changement qui, de fait, est plus fort à la métropole pour les catégories C que pour les catégories A. Et après, on a priorisé des délégations, donc des services, en priorisant les services qui sont en toute proximité avec les habitantes et habitants qui sont le plus en situation de fragilité, de précarité, donc les hommes et les femmes qui sont dans ce qu'on appelle les maisons de la métropole, mais pas que. Voilà. Et ça pareil, ça n'a pas été évident à aller chercher cet arbitrage, même si dans la méthode, auprès de mes collègues de l'exécutif, du président et de la directrice générale des services, c'était évident que de toute façon, on ne migrerait pas tant qu'il n'y aurait pas eu ce passage, cet accompagnement au changement, qui s'est doublé d'autres choses. Hein. Il y a un sujet sur le PIX, enfin, sur l'acquisition des compétences minimum. Enfin voilà, nous, ça nous a permis de faire un gros paquet autour du numérique, puisque Bertrand a pris soin de le dire aussi dans ses premiers propos. Il y a un sujet de dématérialisation, alors on fera un autre sujet un autre jour là-dessus, de certains services du quotidien, et on met en place des conseillers numériques dans les lieux de proximité et de quotidienneté, et on se rend compte que nos propres agents vont se former auprès du conseiller numérique. Enfin voilà, il y a un sujet de compétences globales numériques et après de migration vers des outils libres.
Très clair. Monsieur Mas, vous souhaitez compléter
ou... Oui, enfin peut-être juste élargir, parce que c'est vrai qu'on on a tous les deux à la métropole et à la ville cet énorme sujet chantier Microsoft, qui, même s'il est un seul item, en fait représente l'essentiel de l'effort, mais simplement pour élargir sur le logiciel libre en général, parce que c'est vrai que je me rends compte que les choses sont quand même pas si simples. Il y a cette volonté politique d'aller vers plus de logiciels libres. Néanmoins, quand on est confronté à la réalité de la situation, voilà, c'est pas toujours très évident. Tout simplement parce que on a parfois des besoins très spécifiques à des métiers très spécifiques et qu'on est un petit peu confronté à ce qui est disponible sur le marché et qu'il n'y a pas systématiquement des solutions alternatives en logiciel libre. Et puis, si elles n'existent pas encore, on n'a évidemment pas toujours la possibilité de lancer un gros chantier de développement pour faire apparaître cette solution. Alors néanmoins, une astuce quand même que je partage, du moins, c'est quelque chose que j'ai compris très très récemment, et je me demandais comment on pouvait privilégier le logiciel libre dans les appels d'offres en marché public, puisque en réalité, vous pouvez difficilement lancer un appel d'offres et dire voilà, je veux une solution libre. En fait, la petite astuce que j'ai découverte, c'est que soit on met en concurrence des entreprises sur une solution, enfin sur des solutions logicielles qui répondent à un besoin, c'est-à-dire on dit voilà, j'ai tel besoin, quels sont les logiciels que vous me proposez, et dans ce cas, il est difficile de privilégier un logiciel libre. Soit vous dites « je veux tel logiciel libre » et vous mettez en concurrence des intégrateurs. Voilà, c'est un petit peu l'astuce, mais alors je le dis parce que il m'a fallu 2 ans de mandat pour comprendre comment on pouvait s'en sortir de ce côté-là. Mais bon, au-delà de ça, quand même, rappelez que c'est vraiment, c'est pas du tout une évidence hein, quand vous voulez passer à du logiciel libre dans l'administration. Il y a quand même pas mal d'obstacles qui peuvent se mettre sur le chemin.
Alors vous avez devancé la suggestion que je voulais évoquer, c'est comment vous procurer du logiciel libre, et rappeler effectivement qu'en 2011, le Conseil d'État a validé qu'il était possible de passer un marché public sur du logiciel libre, parce qu'en fait, du fait même des caractéristiques intrinsèques du logiciel libre, il n'y a pas de rupture d'égalité, puisque n'importe quelle entreprise qui s'en donne les moyens, qui a les compétences, peut participer à l'appel d'offres. En fait, ça ne rompt pas l'égalité, puisque justement, ça garantit les libertés nécessaires. Je pense que c'est toujours intéressant de le rappeler, effectivement. En très peu de mots, est-ce que vous avez plutôt commencé par les postes de travail, les logiciels bureautiques, plutôt par les logiciels métiers? Quelle a été votre priorité?
Alors, côté métropole, on a commencé sur la bureautique, donc le quotidien, et en particulier, comme je le disais, des personnes qui sont à l'accueil, assistants, assistantes, voilà. Je rejoins Bertrand sur le sujet aussi, juste pour rajouter une brique, des métiers spécifiques où on est toujours, comme dans n'importe quelle entreprise, malheureusement, même si on est service public, on est toujours dans l'urgence. Ça m'est arrivé des vendredis soirs ou des samedis d'être obligé de signer des trucs, et ça fait Ça fait vraiment mal au cœur, mais voilà, on se rend compte qu'il y a un truc qui est planté, il faut aller vers autre chose, on n'a pas le temps d'aller sourcer, en fait, ce qui pourrait être fait. Et je pense que c'est l'autre message qu'il faut faire passer, c'est cette question du respect des libertés, finalement, et de notre souveraineté, c'est du temps long, et donc ça doit se poser. Je pense que Bertrand Lamennais qui le dit très souvent, il faut qu'on le repose dans l'inconscient collectif. Donc vous faites très bien votre job, faut l'amplifier, porter encore plus de plaidoyer, je vous en prie. Et nous, on a vraiment une capacité à en parler aux jeunes générations, parce qu'on porte plein d'événements, machin, la ville de Lyon, elle porte aussi des actions vers les enfants. Je pense que c'est un peu simpliste, mais il faut commencer par là, parce que sinon, comme l'a indiqué Bertrand, on rencontre des murs, parce qu'on est avec des hommes et des femmes qui ont de 25 à 58 ans, et qui ont une habitude des pratiques et qui intellectuellement veulent bien recevoir nos arguments politiques, mais dans leur quotidien, c'est tellement plus simple. Donc voilà, au nom de l'efficacité du service public, on va toujours nous opposer les habitudes, enfin voilà, les réflexes. Donc vraiment, gardez dans votre plaidoyer cette nécessité d'accompagner, dès la prise en main des outils numériques, la jeune génération, pour qu'elle aille directement vers ces outils-là, et que pour elle, ce soit la norme, c'est comme toujours, et que la norme, ce soit pas du logiciel privateur.
Je suis en plus d'accord, je suis persuadé qu'un des champs de bataille les plus importants est celui des imaginaires, et c'est et là clairement ça s'inscrit dans le temps long. J'aimerais qu'on puisse, je sais Emeline Baume que vous allez devoir nous quitter très rapidement. Je vais vous proposer peut-être, si vous voulez, une idée forte que vous souhaitiez qu'on retienne. Il y a des sujets qu'on n'a pas encore pu et qu'on n'aura pas. De toute façon, on peut difficilement faire le tour entier d'une question aussi large, mais vous avez parlé des écoles, des collèges, il y a les questions de la sobriété numérique, il y a l'enjeu, voilà, des compétences à internaliser ou plutôt s'appuyer sur la prestation de services et sur les entreprises locales. Est-ce qu'il y a un sujet, un de ces thèmes sur lequel vous souhaiteriez vous exprimer avant de devoir nous quitter?
Moi, je voudrais revenir sur les messages et les expériences positives qu'on fait vivre à notre jeunesse. On a la chance d'être sur un territoire, je le dis, parce que Bertrand les connaît bien aussi. On a la chance sur notre territoire d'avoir une association d'éducation populaire, laboratoire d'innovation des usages numériques qui s'appelle Fréquence École, qui balaye beaucoup de choses et qui a eu une écoute, entre autres, dans le cadre d'un gros événement qui s'appelle Super Demain. Et j'aimerais vraiment juste déjà, petit point de progression pour moi et pour le territoire, que dans cet événement-là, on amène plus et mieux ces sujets-là. On va beaucoup sur les sujets de la donnée, et c'est très bien, mais qu'on aille plus loin et qu'on arrive à y mettre la brique libre, parce que c'est un événement très familial et qu'on peut se le permettre, donc osons. On est sur un territoire où on peut se permettre ce genre de choses. Et le fait de l'affirmer là, ça me permet aussi de m'appuyer dessus pour dire, voilà, il faut qu'on le fasse, que l'année prochaine, Super Demain, ait cette entrée-là. Et donc je compte sur vous.
Eh ben écoutez, on va participer à diffuser ce message. Et je rappelle que tous les voilà qu'on a un site web pour nos émissions qui liste les différentes références qui pourraient être évoquées. Je vous demanderai voilà le lien, une référence à lister sur notre site web pour que les personnes qui nous écoutent puissent la retrouver. Un grand merci Emeline Baume de vous être rendu disponible. Et puis voilà,
merci, c'est bonne
une très bonne journée. Et puis Bertrand Mas, je vous propose, il nous reste encore un peu de temps pour continuer un peu à creuser ce sujet passionnant, des politiques publiques pour le logiciel libre. Ah, alors attendez que je me trompe. Bertrand, vous êtes toujours avec nous, je ne me suis pas trompé.
Oui, je suis toujours avec vous, c'est bon. Tout bon.
Alors, très bien. Puisqu'on a parlé un petit peu d'école, est-ce que vous souhaiteriez, parce que je vais rappeler peut-être pour contexte que dans une réponse écrite récente, le gouvernement a explicité que les solutions en ligne proposées par les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, ne seraient pas compatibles avec le droit des données personnelles, ce qu'on disait plus tôt, et qu'à ce titre, devraient être exclus des écoles. Donc, a priori, voilà, ça concerne Lyon, puisque vous êtes responsable du niveau du premier degré. Est-ce que vous avez une politique publique spécifique sur les questions de l'équipement informatique des écoles, pas encore?
Pas encore. Pour être tout à fait honnête, le sujet numérique à l'éducation, je le vois de très loin et par ailleurs, on a une direction de l'éducation qui est quand même assez éprouvée par d'autres sujets en ce moment et ces dernières années, qui a été pas mal essorée par les années Covid. Bon, et ça se poursuit. On a des problématiques d'enfants sans toit qui sont logés dans les écoles, etc. Enfin bref, on a vraiment une direction de l'éducation qui est sur le pont sur beaucoup de sujets, et c'est vrai que le sujet numérique, encore une fois, c'était pas forcément la priorité. Je me permets juste de revenir deux secondes sur ce que disait Emeline tout à l'heure. Moi, de mes observations, ce qui se passe dans les autres villes, je vois un peu deux types de configurations. Ça va être les villes où la DSI est très très convaincue par le logiciel libre et à la limite il se peut que l'élu n'en ait rien à faire et la situation plus ou moins inverse. c'est-à-dire très poussé, le logiciel libre est très poussé par les élus, et la DSI n'y a pas forcément été sensibilisée jusqu'ici. Moi je suis plutôt dans le deuxième cas de figure, et c'est vrai que c'est pas évident, donc il y a évidemment cet enjeu pour les élus d'aller convaincre les DSI, etc. Néanmoins, les choses se passent forcément beaucoup plus vite et beaucoup mieux lorsque la DSI elle-même est porteuse, et je pense que c'est plus facile dans les DSI qui ont gardé des capacités de développement. Voilà, c'est-à-dire qu'une DSI qui développe encore du logiciel, souvent les gens qu'on y voit sont aussi attachés à cette notion de service public accessible à tous et donc de partage du logiciel, quoi.
D'ailleurs, je vais rappeler, alors j'ai pas le numéro en tête de l'émission, mais nous avions reçu pour les personnes qui nous écoutent Nicolas Vivant, qui lui justement était DSI à la ville de Fontaine à l'époque, et qui en tant que DSI avait porté et convaincu finalement les élus également de l'intérêt du logiciel libre, et donc il a pu nous raconter une histoire aussi sous une autre perspective d'une politique, d'une collectivité qui agit pour le logiciel libre. Voilà, donc c'est effectivement différentes approches qui existent. Alors vous avez commencé à évoquer, là vous avez évoqué à nouveau voilà la question des compétences en interne, de comment une collectivité se procure de logiciels, parce que c'est en fait une question extrêmement importante si on veut faire avancer le logiciel libre. C'est pour ça que les prix, nous, on défend une priorité au logiciel libre et au format ouvert. Comment ça se passe? Alors, du coup, si je comprends bien, à Lyon, vous avez pas forcément énormément de compétences, vous avez pas de développement en interne, donc vous avez pas non plus de politique de contribution au logiciel libre, a priori. Voilà. Comment vous mettez en œuvre une politique d'acquisition plutôt favorable au logiciel libre?
Oui, alors le reversement, on peut le faire hein, éventuellement. Après, c'est sur du logiciel qui n'aura pas été développé par des personnes Ville de Lyon, mais par des prestataires éditeurs.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, on a quand même, même si historiquement, on n'est pas complètement tourné vers le logiciel libre, bon, il y avait quand même des initiatives qui avaient déjà existé et d'autres nouvelles qui ont vu le jour. Typiquement, on a mis en place une plateforme d'initiative citoyenne qui a été le support de notre, enfin qui est toujours le support de notre budget participatif. Bon, là-dessus, on a eu recours à du logiciel libre avec Open Source Politics et Decidim. Et puis parfois, et c'est ce qui va se passer dans notre entente avec la métropole et le CITIV, il va y avoir des développements spécifiques qui vont être effectués et qui vont être reversés à la communauté, quand bien même ce sera effectué par un sous-traitant éditeur, quoi. Voilà, donc on peut contribuer à la communauté, même si c'est pas nous directement qui développons, mais si ce sont des éditeurs sous-traitants, quoi.
D'accord. Et quand vous, donc du coup, vous êtes plus appel à de la prestation de service, plutôt, j'imagine, peut-être sur des entreprises plutôt locales ou pas forcément. Et du coup, vous prévoyez dans les contrats marchés publics ce reversement?
Alors, j'aurais du mal à vous répondre. Alors, de fait, il arrive qu'on puisse privilégier des entreprises locales, mais encore une fois, le critère de localisme, je ne sais pas si c'est ça le terme, mais ne peut pas être utilisé hein, dans les marchés publics, sauf à trouver des astuces un peu de détournement, mais vous pouvez pas dire, voilà, je veux une entreprise qui soit située sur le territoire lyonnais, voilà, au nom du libre accès à la commande publique. Néanmoins, il arrive qu'on puisse avoir recours à des acteurs locaux, typiquement sur notre solution collaborative qu'on est en train de déployer. Quand je dis collaboratif, c'est édition collaborative, visio, chat, etc. Donc on a recours au prestataire Watcha qui est sur le territoire lyonnais, donc c'est plutôt, plutôt une chance. Et puis j'ai oublié le début de votre question, désolé.
Non, vous y avez répondu, mais c'est peut-être le point de départ, c'est comment vous faites en sorte d'acquérir, quand vous avez besoin, vous identifiez un besoin logiciel, vous avez un besoin logiciel identifié, soit pour remplacer un ancien logiciel privateur, soit parce qu'un nouveau besoin émerge. Comment vous faites en sorte de procurer du logiciel libre?
Bah en fait, tout simplement, la situation, elle s'est pratiquement pas posée jusqu'ici parce qu'on n'a pas eu tant de renouvellement que ça à faire de logiciels. Et puis, j'ai en tête un logiciel où on n'a pas eu recours à du logiciel libre parce que la solution libre ne répondait pas aux besoins, quoi.
Et bien, quand c'est une réalité, de toute façon, on peut pas, on comprend la réalité aussi auquel vous avez d'autres missions, des obligations de service public, de continuité notamment. Donc,
Et alors, peut-être simplement citer un logiciel qu'on a récemment mis en œuvre, où pour le coup, on a utilisé un socle de la ville de Paris, qui s'appelle Lutèce, qu'on utilise sur pas mal de nos téléservices. Bon, bah là encore, en fait, on a eu recours à un développeur externe, mais en l'occurrence, on imposait la solution logicielle Lutèce et puis on a pu mettre en concurrence des intégrateurs. Et après, bah, de la même façon, les développements spécifiques qui ont été effectués ont été reversés à la communauté. Alors, je ne sais plus exactement la plateforme, etc., mais c'est Lutèce de la ville de Paris.
Oui. D'ailleurs, on avait reçu Pierre Pierre Lévy, qui était le développeur pour cette solution logicielle pour la ville de Paris. C'est l'émission Libre à vous 27, donc libreavous.org/27. Alors, vous avez parlé, du coup, il y a une question qu'on a évoquée en première partie beaucoup, qui est celle de la mutualisation. Vous avez des politiques de mutualisation, j'imagine peut-être avec la métropole et d'autres municipalités du territoire?
Oui, bah alors donc comme je disais déjà en termes de mutualisation, je pense que le plus gros, la solution la plus présente sur nos systèmes d'information, c'est le fameux Lutèce qu'on vient d'évoquer. Et après, le gros chantier à venir, c'est ce qu'on est en train de lancer avec la métropole et le CITIV. Alors sur la mutualisation, donc effectivement, moi c'est quelque chose pour lequel je pose beaucoup. Maintenant, je me rends compte également des difficultés, hein, c'est-à-dire que en fait, dans un projet de mutualisation, toutes les parties ont leurs petits besoins spécifiques. Et puis tout le monde, quiconque a fait du mode projet dans une organisation, sait que déjà au sein d'une organisation faire un projet c'est pas toujours simple, mais quand il faut en mêler trois en l'occurrence pour ce qui nous concerne ou plus, ça peut vite devenir très compliqué et donc les enjeux de gouvernance notamment, enfin d'organisation d'une façon générale sont importants et peuvent rendre les choses un petit peu compliquées voire décourageantes dans certains cas.
D'accord. Bon, il faut aussi avoir en tête les limites et les difficultés pour pouvoir avancer plus efficacement aussi, j'imagine. Je vois le temps qui file et je sais qu'il y a une question que m'avez signalé vouloir aborder, hein, qui est celle de la sobriété numérique. En d'autres termes, pour une collectivité, de savoir comment elle peut s'appuyer sur des technologies informatiques pour remplir sa mission de service public en minimisant son impact environnemental, hein, qui est aussi une considération essentielle d'intérêt général. Alors, je crois que Lyon est active sur ces questions. Elle fait partie de vos politiques publiques. Est-ce que vous souhaiteriez développer un peu sur cette question?
Oui, tout à fait. Bah, pour moi, c'est la politique numéro un s'agissant du numérique, c'est de, autant que possible, réduire l'impact environnemental de nos systèmes d'information. Et donc, ça passe en premier lieu par réfléchir à comment faire sans numérique. Pour faire simple, voilà. Donc, ceci pour dire que je suis très favorable au logiciel libre. Mais je pense aussi qu'on peut faire des choses très inutiles et avec un très mauvais impact sur l'environnement en logiciel libre. Pour moi, la première des priorités, c'est réfléchir aux alternatives au numérique. Et ceci d'autant plus là quand on parle de dématérialisation que on constate quand même après quelques années que la dématérialisation du service public laisse quand même beaucoup de monde sur le côté. Voilà, donc d'une certaine façon, de mon point de vue, la première des priorités aujourd'hui qui s'impose à nos sociétés, c'est de réfléchir à comment on freine tout simplement la numérisation du monde, quoi.
Écoutez, moi je pense que quand on défend le logiciel libre, on défend une informatique émancipatrice et donc ça va de pair en fait avec cette question d'une informatique durable, d'une informatique qui préserve aussi nos conditions de vie. Donc je pense que le lien est là en fait. Il y a pas photo, si vous me permettez l'expression. Et alors pour conclure, puisqu'on a déjà presque une heure d'enregistrement, quels sont pour vous, en deux minutes, on va dire, les éléments que vous aimeriez que les auditeurs et auditrices retiennent de notre échange?
Je pense que c'est précisément les deux éléments que je dis, hein, c'est que je viens de dire là. C'est aujourd'hui, réfléchissons tous ensemble à comment on peut faire moins de numérique. Et arrêtons de penser au miracle numérique. Moi, c'est vraiment ce que je constate aujourd'hui dans nos services, par exemple, hein, c'est que dès qu'il y a un dysfonctionnement, des difficultés, etc., on espère que le numérique sera la solution et on attend un certain miracle de l'application numérique qui va arriver. Donc, premier message pour moi, c'est réfléchissons à comment on peut faire sans numérique. Et le deuxième message aussi, c'est il est temps de mettre un gros coup de frein à main sur la numérisation du service public. Rouvrons des guichets, rouvrons des solutions en présentiel, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de laissés pour compte.
Merci beaucoup pour ces paroles fortes. Bertrand Mas, vous êtes conseiller municipal à la ville de Lyon. Vous êtes adjoint notamment sur les questions de politique numérique. Émeline Baume, vice-présidente de la métropole du Grand Lyon, était avec nous également. Un grand merci à vous deux de nous avoir consacré ce temps d'échange. Tous mes encouragements pour les politiques publiques que vous menez en faveur des libertés informatiques et je vous souhaite une excellente fin de journée.
Merci beaucoup. Au revoir.
De retour en direct sur la radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et sur causecommune.fm. Nous venons d'écouter un sujet donc sur les politiques de la ville de Lyon et du Grand Lyon en faveur du logiciel libre avec Émeline Baume, vice-présidente de la métropole du Grand Lyon, et Bertrand Mas, conseiller municipal à la ville de Lyon. Nous allons faire maintenant une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons une nouvelle chronique de Laurent et Laurette Costi. Mais avant cela, nous allons écouter Noslani par Marcia Higelin. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Voilà, nous sommes en train d'écouter la fin de Nozlani par Marcia Higelin, disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Je suis Étienne Gonu de l'April et nous allons passer à notre dernier sujet. À cœur vaillant, la voix est libre de Laurent et Laurette Costi. Comprendre Internet et ses techniques pour mieux l'utiliser, et en particulier avec des logiciels libres et services respectueux des utilisatrices et utilisateurs, pour son propre bien-être en particulier et celui de la société en général. Aujourd'hui, un hommage mérité aux faits divers et à Eugène Rochko, développeur de Mastodon. On se retrouve juste après. Toujours sur la radio Cause Commune.
Allô papa, faut qu'on cause de ce qui se passe avec Twitter et que je t'explique ce qu'est le fait divers et Mastodon. Comme j'ai eu envie de comprendre, bah j'ai cherché et je vais te résumer ce que j'ai compris. Puis tu me diras si j'ai bon.
Waouh, c'est une bonne chose de t'avoir envoyé en Espagne, de l'autre côté du globe, pour tes études. Cette retraite tibétaine dans les boîtes de nuit hispaniques t'est absolument bénéfique. Et comment est vécu le rachat de Twitter par Elon Musk là-bas ?
Oh bah, j'ai pas tout lu, mais les Espagnols trouvent que c'est bizarre pour quelqu'un de réputé visionnaire de n'avoir pas vu que le départ de plus de la moitié des salariés ferait que ça fonctionnerait moins bien. Ça vérifie au passage, une fois de plus, leur fameux dicton médiéval « Dans le numérique, si t'es pas copain avec le châtelain, ça fait du boudin ».
Ah, c'est en effet un dicton que ne renierait pas Yann Kervran, spécialiste du troisième quart du XIIe siècle, même s'il objecterait sans doute quant à sa véracité. En tout cas, n'hésite pas à lire ses livres que l'on trouve sur le site Framabook et à lui verser l'obol si ça te plaît. Et comme on est dans les citations, je me permets de compléter avec une autre d'Ada Lovelace, souvent d'ailleurs faussement attribuée à Léonard de Vinci. Si tu n'arrives pas à faire des bénéfices en vendant tes voitures électriques, tu n'as qu'à vendre tes crédits carbone.
Mais oui, j'ai lu ça dans mes pérégrinations. En effet, alors que Tesla n'était pas rentable, des bénéfices ont pu être affichés à cause de cette revente de crédit carbone. Ça veut dire que la question environnementale, pour Elon Musk, ce serait juste une occasion de faire toujours plus de turbo-argent indécent ? Oh, je ne peux me résoudre à le croire ! Il ne peut pas y avoir de personnes comme ça aussi vénales et cyniques sur Terre !
Oh, l'environnement pour lui, c'est un business comme les autres ! Pour lequel il promeut ces technologies, laissant croire qu'elles vont résoudre le problème environnemental. Il est juste hors de la réalité. Il se trompe lui-même, c'est comme sa conception de la liberté de parole, elle est tout à fait particulière.
En effet, j'ai lu dans France 24 qu'Elon Musk a tout fait pour censurer un jeune internaute qui publiait sur son compte Twitter les déplacements de son jet privé. Et aussi, selon le Guardian, qu'un ancien ministre de Bill Clinton a été bloqué par ce pseudo-fervent défenseur de la liberté de parole, sous prétexte qu'il avait critiqué la manière de traiter les ouvriers dans les usines Tesla. C'est hallucinant.
Oh, c'est pas joli joli tout ça. Mais il y a encore d'autres exemples. Elon Musk a aussi transformé la vie de Martin Tripp, un ancien employé de Tesla, en enfer parce que ce dernier avait parlé à un journaliste en 2019. Le téléphone de Martin Tripp a été mis sur écoute. Il a été suivi par des détectives privés et assigné en justice par Tesla. Une campagne pour ternir sa réputation a été organisée, raconte le site The Verge. Martin Tripp a finalement décidé de s'installer en Hongrie pour protéger sa famille, rapporte une journaliste du New York Times.
Donc, cette personne essaie de paraître différente et s'auto-persuade qu'elle l'est. En plus de mon cursus boîte de nuit en Espagne, je pourrais en suivre un en psychologie. Mais pour ce cas, pas besoin d'être visionnaire pour voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Bon, évitons de dissiper de l'énergie et du temps à parler de ce boulot. Surtout qu'on risque de se retrouver confronté à des hordes d'imbéciles qui sont pas capables de discernement, qui adulent leur maître et le défendent. À la limite de la secte quand même ce truc, hein.
Complètement d'accord avec toi. Et je sais déjà où tu veux en venir. Je suis fier que tu te sois renseigné à son sujet.
Oh bah merci mon papounet pour ce compliment dithyrambique. Alors par contre, je crois que ça se dit plus trop ce mot, genre je sais même pas ce que ça veut dire. Effectivement, s'intéresser à la vie de Louise Michel n'a pas été une sinécure. Pareil, celui-ci, ça se dit pas non plus, même si je sais ce que ça veut dire, faut l'enlever de la liste. Hein. Tu savais que pendant la Commune, elle aurait dit « Le logiciel libre est au numérique ce que le syndicalisme est au monde du travail. Une conscience. »
Comment dire ? D'abord, je suis content que tu aies utilisé le conditionnel pour l'attribution de cette citation. Ensuite, la Commune n'est pas tout à fait son domaine, mais je pourrais demander à Yann Kervran de vérifier. Et puis enfin, ça n'a pas de rapport direct avec le sujet que tu voulais aborder, si ?
C'est juste. Mais d'abord, je voulais prendre à contre-pied ton instinct visionnaire et prouver que si l'on peut être visionnaire une fois, on ne l'est pas forcément à vie. Ensuite, j'avais envie d'évoquer Louise Michel, qui a été une femme extraordinaire et dont on ne parle pas assez, je trouve.
Ok, ça me va, je respecte alors. Et puis, poursuivons avec la personne extraordinaire dont tu voulais me parler, Eugène Rochko.
Gagné. Mais bon, t'avais relu la chronique, du coup ça compte pas. Eugène Rochko, donc. Entre autres, désormais connu et reconnu comme le développeur et initiateur du service de microblogging libre et décentralisé, Mastodon. C'est un type qui aurait pu se conformer à l'image fantasmée, entretenue et néfaste du rêve américain. Autrement dit, faire un pognon de dingue pour écraser les autres et dominer. Et bah figure-toi qu'il a pas choisi cette voie.
Oh, le vrai courage est là. C'est pour le coup quelqu'un que j'admire. Il me fait penser d'ailleurs à Jean-Baptiste Kempf, contributeur majeur du projet Vidéolan, autrement dit VLC, que tout le monde utilise. Il était l'invité de l'émission 42 de Libre à vous. Il a résisté, devant le succès, aux sirènes du pognon et a choisi délibérément de faire passer le commun avant sa gueule. Il faut avoir une force colossale en soi pour tenir la ligne dans le temps.
Eugène Rochko, en faisant le choix de penser Mastodon en service décentralisé et en attachant une licence libre à son programme, a fait le choix de ne pas devenir un libertarien égocentré dominateur et voulant influencer des choix démocratiques. Il a préféré doter le numérique d'outils alternatifs et moins corrosifs que ceux des géants du web. Et ça, c'est stylé.
Cette décentralisation permet à chacun et à chacune d'avoir la capacité d'agir sur son petit bout d'Internet. Mais du coup, explique-moi ce que tu as compris de Mastodon, du fait divers et d'ActivityPub. Trois gros mots qui sont effectivement plus d'actualité que dithyrambique et sinécure.
En effet, bon d'accord. Commençons par Mastodon, outil libre de microblogging, puisque c'est ce dont nous parlions en mentionnant son créateur Eugène Rochko. Peut-être que le point le plus important à comprendre pour les personnes habituées aux réseaux sociaux centralisés, c'est cette possibilité qui est offerte d'installer son propre mastodon pour une échelle déterminée, que ça soit la famille, une association, une structure, etc. Cette installation, que l'on appelle instance, peut ensuite être reliée avec d'autres instances de mastodon, et même d'autres choses d'ailleurs que l'on verra après.
C'est une manière de responsabiliser un groupe autour d'une instance pour en fixer les règles, la gérer en commun et faire que ce commun dure le plus longtemps possible et soit respecté. Tu as compris tout ça très vite alors que moi, il avait fallu qu'on m'explique longtemps.
Bien sûr, on peut choisir de se fédérer avec telle ou telle autre instance en fonction des règles et des choix de publication posés par les personnes qui administrent l'instance. Et ce qui permet de se connecter à une instance, c'est le protocole ActivityPub, que je vais te laisser expliquer parce que là, franchement, j'ai un peu la flemme.
J'ai pas préparé, moi. ActivityPub, déjà, bah, c'est pas un truc qui mesure l'activité de la pub, hein. C'est déjà ça. Mmh. Et en passant, à ce sujet, n'hésite pas à installer l'extension GreenBeam dans Firefox pour appréhender toutes les communications qui s'opèrent via les cookies. On en a déjà parlé, mais c'est juste hallucinant.
Merci, je serai, mais ta tentative de détournement tend à démontrer ton inculture en matière de protocole ActivityPub. Je prends le relais, tu peux aller te servir un rhum orange. Mais je vais faire simple. J'ai lu pour toi la page Wikipédia. ActivityPub est un standard ouvert pour réseaux sociaux décentralisés basé sur le format ActivityStream 2.0. Il a été officiellement publié comme recommandation du W3C le 23 janvier 2018.
Ah si, ça je sais ça. Le W3C, c'est le World Wide Web Consortium, abrégé par le sigle W3C. C'est un organisme de standardisation à but non lucratif, fondé en octobre 1994, et chargé de promouvoir la compatibilité des technologies du World Wide Web. Voilà, et moi aussi je maîtrise parfaitement le copier-coller sur Wikipédia. Je peux même citer leur ligne directrice, le leitmotiv du W3C est « un seul web, partout et pour tous ». Des gens bien à n'en pas douter.
Merci pour cette précision. Je poursuis donc. ActivityPub fournit une interface de programmation appelée API, pour Application Programming Interface, qui permet de faire plein de trucs. Cette API est principalement utilisée pour permettre, entre serveurs, la distribution de notifications et de contenus. Il est la base structurante du fait divers.
Et nous voilà donc dans le fait divers, cette fédération d'univers.
Et c'est là qu'on va commencer à mesurer tout l'intérêt du protocole. Il va permettre de lier non seulement des instances Mastodon, mais aussi des autres services qui se sont construits sur le protocole ActivityPub.
Exact. Je suis admirative de tout ce que tu as appris et de ta capacité à l'expliquer.
Et attends, c'est pas fini. Je voulais illustrer avec un exemple. Dans le fait divers, et grâce à ActivityPub, tu vas pouvoir interagir avec le logiciel libre d'annonce des vêtements comme Mobilizon, ou mettre un commentaire sous une vidéo dans PeerTube sur une instance qui aura été configurée pour le permettre.
Certaines personnes sur Twitter se sont moquées de la complexité apparente de Mastodon, évidemment, comparativement à l'outil centralisé qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Mais changer ses habitudes reste difficile, et si l'on n'est pas convaincu de la nocivité des réseaux centralisés, il manque sans doute la capsule d'énergie qui peut aider à faire l'effort nécessaire.
Oh bah tu sais, mon streamer préféré, Antoine Daniel, il l'a avalé la capsule, hein. Il est sur Mastodon depuis 5 ans et puis il a désactivé son compte Twitter il y a quelques semaines. Bon, par contre, mon cher papa, pendant que j'enregistre cette chronique sur la télé du salon, bah oui, parce que mon écran, il est toujours cassé, mes colocs, ils ont fait du pop-corn et je vais aller leur en voler. Et puis, ça va aussi bientôt être l'heure de mon cours de boîte de nuit au Tropicana.
Par les saintes écritures qui permettent d'afficher Hello World en Python, je vais cesser immédiatement de t'accaparer et te rendre ta liberté. Merci pour ce dossier pour lequel je te mets un 20 sur 20. Tiens-moi au courant si ton prof de boîte de nuit te met moins, j'irai négocier. Et surtout, vraiment heureux de te retrouver en chair et en os à la fin du mois, tu me manques. La bise m'a fait du fait divers.
Oh, à très bientôt mon papapotame de la famille des mastodons. Bisous.
Nous venons d'écouter À cœur vaillant, La voix est libre, la chronique de Laurent et Laurette Costi. nous proposer un hommage mérité aux faits divers et à Eugène Rochecot, développeur de Mastodon. Je vous précise d'ailleurs que nous parlerons en détail du fait divers et d'Activity Pub en 2023. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous à la lettre d'actu et au flux RSS de l'émission pour ne pas manquer l'annonce de l'émission. Comme vous l'entendez au jingle, nous approchons de la fin de l'émission et nous allons terminer par ces quelques annonces. Alors, je vous l'annonçais un peu plus tôt, nous proposons un questionnaire pour connaître l'auditorat de Libre à vous. Vos réponses à ce questionnaire sont très précieuses pour nous, elles nous permettront d'évaluer l'impact de notre émission et de mieux vous connaître. Et de votre côté, ce questionnaire est une occasion pour nous faire des retours. Répondre à ce questionnaire vous prendra pas plus de 5 minutes, rendez-vous sur libreavoue.org pour le retrouver. Si vous êtes en Île-de-France ce vendredi 16 décembre, n'hésitez pas à faire un tour dans le 14e arrondissement. L'April organise son apéro mensuel dans son local. Tout le monde est le bienvenu. Dans une période de progression importante du Covid, voilà, le port du masque sera recommandé pour permettre à tout le monde de participer le plus sereinement possible. Rendez-vous vendredi 16 décembre, donc à 19h. Si vous êtes du comté de Montpellier, ce même vendredi 16 décembre à 19h30, projection du film LOL, logiciel libre, une affaire sérieuse, au cinéma Utopia à Montpellier, suivi d'un débat en présence de François Pellegrini, vice-président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL. Cause commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h dans les locaux de Paris, 22 rue d'Imay, dans le 18e arrondissement. Une réunion d'équipe ouverte au public avec apéro participatif à la clé. La prochaine soirée rencontre aura lieu le 6 janvier 2023. Je vous invite à consulter le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org, pour y trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture du libre près de chez vous. Thierry va vérifier, est-ce qu'on est bon sur le lancement du timing du générique? Peut-être que oui, c'est peut-être moi qui m'embrouille, sinon on pourra relancer, vérifie sur le séquencier. Et désolé si je t'embrouille pour rien, mais en tout cas voilà, ça ne change pas le fait que notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, Isabelle Carrère, Bertrand Masse, Emeline Baum, Laurent et Laurette Costi, aux manettes de la régie aujourd'hui Thierry Holville. Un énorme merci à mes collègues Frédéric Couchet et Isabelle Avani pour leur aide dans la préparation de cette émission. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie, Daniel Giraudin. Également aux personnes qui s'occupent... excusez-moi, petite embrouille dans mes lignes, c'est pas grave. Je remercie Julien Haussmann, également membre de notre équipe podcast, qui a traité le fichier du sujet long aujourd'hui. Et Olivier Gréco, le directeur de l'antenne de la radio. Merci à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles, ainsi que sur la site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour nous indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libreavoue.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur est 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également à la radio Cause Commune la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct, mardi 20 décembre 2022 à 15h30, la dernière de l'année d'ailleurs, et notre sujet principal portera sur les enjeux de diversité, de mixité, de recrutement et de logiciels libres. Nous vous souhaitons de passer une très bonne fin de journée. On se retrouve en direct mardi 20 décembre 2022 et d'ici là, portez-vous bien.